L'investissement, on le présente souvent comme un choix un peu binaire. D'un côté, il y a la bourse, c'est haut, c'est bas, c'est montagne russe. Et de l'autre, les placements très sécurisés, mais qui, bon, rapportent pas grand-chose, souvent moins que l'inflation. Et si, s'il existait une troisième voie, un espèce d'hybride?
C'est exactement ça. Un produit qui promettrait le dynamisme des actions avec un filet de sécurité.
Et c'est là qu'on arrive au sujet du jour.
Les produits structurés.
Exactement. Un nom qui, je trouve, peut faire un peu peur. C'est technique, c'est un peu opaque.
Oui, et pourtant on en voit de plus en plus, surtout dans les contrats d'assurance vie. Ça répond à une vraie angoisse des épargnants. La peur de perdre, mais aussi la frustration de ne pas gagner assez.
Alors, notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça. On va ouvrir le capot de ces produits, on veut comprendre ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent, leurs promesses et surtout où se cachent les risques.
Et pour ça, on a des sources très intéressantes. On a le point de vue d'un ex-trader, quelqu'un qui a créé ces produits et qui explique la mécanique de l'intérieur. Et à l'opposé, on a des analyses très, très critiques.
Qui parlent même d'arnaque parfois.
Oui. L'idée, c'est de naviguer entre ces deux visions pour se faire une idée la plus juste possible.
Parfait. Alors, allons-y. Commençons par la base. Quand on investit dans un produit structuré, on achète quoi au juste?
C'est la question fondamentale. En fait, avant toute chose, c'est un titre de créance. On prête de l'argent à une banque d'investissement, c'est tout.
On prête de l'argent à une banque. D'accord.
Oui, et en échange, elle nous donne un contrat. Et ce contrat, il définit tout. Quand et comment on sera remboursé et avec quel gain potentiel.
Et pourquoi on dit structuré alors?
Parce que ce contrat, c'est un assemblage. Imaginez qu'on prend plusieurs briques financières pour construire un produit sur mesure.
Des briques, c'est-à-dire?
En gros, il y a deux briques principales. La première, c'est la brique sécurité. Une grande partie de l'argent sert à acheter quelque chose de très sûr, comme une obligation. Le but de cette brique, c'est de garantir qu'à la fin, à l'échéance, on récupère au moins son capital de départ.
D'accord, ça c'est le filet de sécurité.
Voilà. Et la deuxième brique, c'est le moteur de performance. Avec ce qui reste de l'argent, la banque achète des options, des produits un peu plus complexes, dont la performance est liée à un actif, souvent un indice boursier, comme l'Eurostoxx 50.
Ok, donc si je résume, contrairement à un achat d'actions classique où l'avenir est incertain, là, les règles du jeu sont fixées dès le départ.
Exactement. Tout est écrit dans le contrat.
Et ces règles, elles tournent autour de quels paramètres?
Il y en a trois qui sont clés. D'abord, l'échéance. C'est la durée de vie maximale du produit. C'est souvent assez long, 8, 10, 12 ans.
D'accord.
Ensuite, il y a le coupon. Ça, c'est le gain promis si les conditions sont remplies, par exemple 7% par an.
Et le troisième?
C'est le plus important pour beaucoup de gens, la barrière de protection.
Le fameux filet de sécurité.
C'est ça. Une barrière à moins 50%, par exemple, ça veut dire que même si l'indice de référence perd, disons, 49% à la fin, on récupère quand même 100% de son capital.
Le cadre est clair, mais le mécanisme en lui-même. La plupart des sources parlent d'un truc au nom un peu barbare, l'autocolle.
L'autocolle, oui. C'est le cœur du réacteur de la plupart de ces produits.
Ça marche comment en pratique?
En fait, c'est plus simple que le nom ne le suggère. Autocolle, ça veut dire rappel automatique. Le principe, c'est qu'à des dates fixes, en général tous les ans, la banque fait une constatation. Elle regarde juste où on est l'indice boursier par rapport à son niveau de départ.
Prenons un exemple concret. J'investis 10 000 euros. Produit sur 10 ans, basé sur l'Eurostoxx 50, coupon de 8% par an. Un an plus tard. Première constatation, il se passe quoi?
Deux possibilités. Scénario 1, le plus simple. Le marché a monté, ou même il est juste stable. L'indice est donc à son niveau de départ ou au-dessus. Là, c'est l'autocall. Le produit est rappelé, il s'arrête. On récupère ses 10 000 euros, plus le coupon de 8%, soit 800 euros. Et c'est fini.
D'accord, ça, c'est si tout va bien. Mais si le marché a baissé, disons que l'indice a perdu 15% à la fin de la première année. Je perds de l'argent?
Non. Et c'est ça qui est intéressant. On ne perd rien à ce stade. Si l'indice est en baisse, le produit continue sa vie, tout simplement.
Donc, on ne touche rien, mais on ne perd rien?
Voilà. On attend la prochaine date de constatation, un an plus tard.
D'accord. Alors, on continue le scénario. Année 2, le marché baisse encore. Et puis, fin de l'année 3, ça y est, l'indice est enfin repassé au-dessus de son niveau de départ. Qu'est-ce qui se passe?
C'est là qu'intervient le mécanisme le plus séduisant de ces produits, qu'on appelle l'effet mémoire.
L'effet mémoire?
Oui, puisque l'indice est positif, à la date de constatation, le produit est autocallé. Il s'arrête. Mais la banque ne va pas seulement verser le coupon de la troisième année. Elle se souvient des coupons des années 1 et 2 qui n'ont pas été payés.
Ah, d'accord, ok.
Du coup, on reçoit son capital, les 10 000 euros, plus 3 ans de coupons. 8% pour l'année 1, 8% pour l'année 2 et 8% pour l'année 3. Soit 24% d'un coup, 2400 euros de gains.
C'est assez impressionnant de toucher 24% d'un seul coup, mais en même temps, ça veut dire que l'argent a été bloqué pendant 3 ans sans rien rapporter. Est-ce que ce n'est pas un peu un miroir aux alouettes ?
C'est une excellente remarque. C'est le cœur du compromis. On renonce aux dividendes, à une liquidité au jour le jour, en échange de ce mécanisme de rattrapage. L'argument des concepteurs, et les statistiques le montrent, c'est que le meilleur scénario pour l'investisseur, c'est justement un marché qui stagne ou qui baisse un peu pendant quelques années avant de remonter.
Parce qu'on surperforme l'indice dans ce cas.
Exactement. Toucher 24% d'un coup, c'est bien mieux qu'un ETF qui aurait fait du surplace pendant 3 ans.
Au-delà de l'aspect purement financier, il y a un côté psychologique qui me frappe. J'ai l'impression que c'est une machine conçue pour nous empêcher de faire la plus grosse erreur en bourse, vendre en panique.
C'est un point absolument crucial. Le pire ennemi de l'investisseur, souvent, c'est lui-même. C'est son cerveau qui crie « vend tout » quand les marchés s'effondrent.
Oui, on a tous connu ça.
Avoir un contrat qui dit « calmez-vous, votre capital est protégé jusqu'à moins 50% à la fin », ça change tout. Ça force à la patience. C'est un argument de vente extrêmement puissant.
Attends, mais là, ça sonne presque trop beau. Un bon rendement, un filet de sécurité, une aide pour gérer ses émotions. Où est le piège ? Parce que nos sources critiques, elles, nous disent qu'il y en a forcément un.
On y arrive. C'est le cœur de l'analyse critique. Le premier grand risque, il concerne justement ce remboursement anticipé, l'autocall. Dans notre exemple, le déclencheur était d'objectif, la performance de l'indice.
Oui.
Mais ce n'est pas toujours le cas. Sur certains produits, notamment ceux basés sur les taux d'intérêt, le remboursement se fait au gré de l'émetteur.
Au gré de l'émetteur, ça veut dire que c'est la banque qui décide.
Exactement. La banque décide, seule, si et quand elle met fin au produit.
Mais c'est énorme ça. Ça veut dire que la banque peut me rendre mon argent quand ça l'arrange elle et le garder quand ça m'arrangerait moi.
C'est précisément ça. Et les conséquences sont redoutables. L'exemple des sources est très parlant. Imaginez un produit qui offre un coupon de 5%.
Ok.
Si après un an, les taux d'intérêt sur le marché montent à 10%, la banque est ravie. Elle vous emprunte à 5% alors que l'argent coûte 10%. Elle ne va jamais vous rembourser. Elle va vous garder captif avec votre petit 5% jusqu'à la fin.
Et moi, pendant ce temps, je rate l'opportunité d'investir à 10% ailleurs.
Voilà. Et à l'inverse, si les taux s'effondrent à 1%.
Là, j'imagine qu'elle me remboursait tout de suite.
Immédiatement. Parce que vous lui coûtez cher. Elle vous paye 5% alors qu'elle peut se financer à 1%. Donc, elle exerce son option, elle vous rend l'argent et vous vous retrouvez avec votre capital à réinvestir dans un environnement où plus rien ne rapporte. Pile ou face, la banque gagne toujours.
C'est un point de vigilance absolument essentiel. Mais il y a un autre piège, plus technique, plus sournois, qui est évoqué. Ça concerne l'indice lui-même.
Oui. De plus en plus, on voit des indices maison créés sur mesure par les banques. Et la critique la plus forte porte sur les indices à décrément.
À décrément.
Le concept est subtil. Un indice normal, comme le CAC 40, il inclut la performance des cours et les dividendes qui sont réinvestis. Un indice à décrément, lui, va prendre l'indice de base et l'y soustraire chaque année un montant fixe, un forfait, disons 5%. Et ce forfait est censé représenter les dividendes.
Et où est le problème si ça représente les dividendes ?
Le problème, c'est quand ce forfait est plus élevé que la réalité. L'une des sources a analysé un indice qui enlevait 5% par an. Sauf que, historiquement, les dividendes dans cette zone sont plutôt autour de 3%.
Ah, d'accord. Il y a un écart.
Oui, un écart de 2% par an. C'est un handicap de performance qui est intégré dans la formule même de l'indice. C'est une sorte de frais caché, invisible, qui profite directement à la banque.
C'est comme si on commençait la course avec un frein à main légèrement serré. Et j'imagine qu'à ces frais cachés s'ajoutent des frais bien réels.
Oui, bien sûr. Les sources parlent de 3 à 5% du montant investi qui partent en commissions diverses dès le départ. Pour le distributeur, le concepteur, la banque.
D'accord. Le tableau est quand même assez sombre. Mais est-ce que toute cette ingénierie est forcément contre l'investisseur ? Nos sources parlent aussi d'innovation qui, pour le coup, semble plus favorable.
Oui, et c'est important de le dire, pour être juste. Le marché est compétitif et certains essayent de se différencier avec des options qui sont vraiment un plus pour l'épargnant.
Comme quoi, par exemple ?
On en a noté deux. La première, c'est la barrière de rappel dégressive.
Qu'est-ce que ça change par rapport à un autocall normal ?
Dans l'autocall classique, il faut que l'indice revienne à 100% de son niveau de départ pour que le produit s'arrête. Avec une barrière dégressive, ce seuil baisse avec le temps. La première année, il faut être à 100%, mais la deuxième, il suffit d'être à 95%, la troisième à 90%, etc.
C'est malin. Ça augmente les chances que le produit se déclenche et paie les coupons.
Ça augmente considérablement les chances, oui. Surtout dans un marché qui a du mal à remonter.
Et la deuxième innovation positive ?
C'est une option qu'on appelle « best strike » ou « meilleur point d'entrée ». Normalement, le niveau de départ de l'indice est fixé un seul jour, J. Si on n'a pas de chance et que ce jour-là, le marché est au plus haut, on part avec un handicap.
Oui, c'est le risque de mauvais timing.
Exactement. L'option « best strike » résout ça. Le niveau de départ ne sera pas celui du jour J, mais le point le plus bas observé sur une période de plusieurs mois.
Ah oui, ça c'est une vraie protection pour l'investisseur.
Ça garantit de ne pas rentrer au pire moment. C'est précisément ça. Ces deux options montrent que l'ingénierie financière n'est pas mauvaise en soi. Tout dépend de l'intention derrière.
Donc, si on fait le bilan, on voit que les produits structurés, ce n'est ni la solution miracle, ni l'arnaque totale. C'est
le mot juste. C'est un échange. L'investisseur renonce au potentiel de gain illimité d'une action, le fameux plus 200% ou plus 300%, et en échange de ce gain qui est plafonné par le coupon, il obtient une protection sur son capital. Et surtout, la possibilité de faire un gain, même si le marché stagne.
Le plus important, c'est donc de bien comprendre les termes de l'échange.
De lire les détails du contrat. C'est là que tout se joue.
Ce qui nous amène à la question finale. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce qu'on doit accepter cette complexité pour ce qui est promis en face?
Utilise la complexité pour extraire de la valeur, pour masquer des frais ou des risques.
Et ça pose une question plus large pour l'avenir.
Oui. Dans un monde de l'investissement qui va de plus en plus vers la simplicité, la transparence, avec le succès énorme des ETF, quelle est la place à long terme pour des produits dont la complexité peut être à la fois leur plus grande force et leur pire défaut?